Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, érotisme et pornographie, le sexe à l'écran. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Le sexe à l'écran, sujet très large, puisqu'il y a eu une évolution depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et on peut considérer que dans la majorité des États, on en est encore à rejeter le moindre soupçon d'érotisme. Ce sont les États occidentaux qui ont changé surtout, je dirais, depuis les années 70. Alors, essayons de définir d'abord ce que peut signifier érotisme et pornographie. Alors, dans l'usage courant, je dirais que l'érotisme serait relatif à l'amour, à la sensualité. Il y a toujours eu des ouvrages érotiques. La pornographie serait relative à des publications obscènes, c'est-à-dire, dans la définition classique, qui blesserait la pudeur. Qu'est-ce qu'on peut citer comme livre? Bien sûr, il y a tous les livres du Marquis de Sade. Et il y a aussi le célèbre 11 000 verges d'Apollinaire. Donc, cette situation de pornographie valable pour les films, on la retrouve aussi pour le cinéma. Alors, la question principale, c'est que la distinction n'est pas évidente. Ce qu'un spectateur considérera comme érotique sera pour un autre pornographique. Il y aurait donc une subjectivité absolue dans la distinction qui varierait donc suivant les individus. Alors, là encore, pour essayer de donner une approche, on pourrait dire que l'érotisme serait ce qu'on imagine et la pornographie serait la description, on peut dire clinique, de la réalité de l'acte sexuel. Alors, on peut citer la phrase de Clémenceau qui illustre bien ce qu'est l'érotisme. Il a déclaré « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier ». Bon, on pourrait lui demander comment imaginer si on visite au rez-de-chaussée, mais enfin, peu importe. Donc, l'opposition, c'est le softcore et le hardcore. Le softcore relèverait de l'érotisme et le hardcore de la pornographie. Là encore, bon, je n'insiste pas sur les définitions et oppositions qui peuvent exister. On pourrait dire, face aux hésitations, qu'il faudrait opposer l'érographie et le pornotisme. Et le problème serait presque réglé. Alors, il y a un élément intéressant de l'usage courant, c'est le domaine juridique. Parce que là, on a des définitions précises de la pornographie et de l'érotisme. Alors, évolution plutôt frappante entre deux décisions, c'est-à-dire une décision où le juge administratif était relativement critique et extensif dans sa définition du film pornographique, et une définition plus récente de 2000, où il va être beaucoup plus large sur ce point. Alors, dans la définition de 1979, le juge dit que le film pornographique, c'est le film qui présente au public, sans recherche esthétique et avec une nudité provocatrice, des scènes de la vie sexuelle et notamment des scènes d'accouplement. Donc là, on peut dire que pour le juge, dès qu'il y a des scènes de hardcore, on a un film pornographique. Donc là, c'est clair. Alors le juge va évoluer et va en quelque sorte s'ouvrir aux transformations sociales. Et il va dire qu'un film est pornographique s'il vise à présenter au spectateur des images d'ordre sexuel que les convenances sociales réprouvent, soit en raison de la nature de ces images, comportement qualifié de déviant ou de pervers, soit en raison des conditions, caractère réel, répétées, insistant, dans lesquelles elles sont présentées. Alors le film qui était touché par ce recours en 2000, c'était le film « Baise-moi » de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Virginie Despentes, vous savez, a été aussi écrivain avec des ouvrages qui ont fait un petit peu aussi polémique. Alors, que dit le juge dans son appréciation? Il dit que le film « Baise-moi » est composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l'intention affichée par les réalisatrices de dénoncer la violence faite aux femmes par la société. Il constitue ainsi un message pornographique et d'incitation à la violence. Alors, à contrario, on peut dire qu'un film ne sera pas pornographique s'il a une réflexion, s'il a une dimension d'analyse au-delà de la présentation des actes sexuels. Donc, la définition du film pornographique est donc beaucoup plus restrictive dans le second cas. Alors, le fait est que finalement, des scènes de sexe non simulées ne sont pas obligatoirement pornographiques si on tient compte de l'intention du réalisateur, je dirais une intention de réflexion, une intention d'art et essai, si on pourrait s'exprimer ainsi. Alors, l'évolution maintenant. Venons à l'évolution, je dirais, évolution historique, avec quelques remarques d'abord sur tel ou tel pays. Alors, on a les exemples de l'Italie, des États-Unis et de la France. Alors, l'Italie est dominée par la religion tout au long du XXe siècle. Et il y a un film qui est assez révélateur et avec une certaine émotion, c'est Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, c'est Philippe Noiret qui fait un projectionniste qui prend sous son aile le personnage qui sera ensuite joué par Jacques Perrin. Et la volonté des censeurs, c'est de dire « on ne doit pas avoir un baiser ». Donc les films vont s'arrêter au moment où le baiser va commencer et recommencent au moment où le baiser est fini. Alors le vieux projectionniste va mourir et il laisse en quelque sorte un legs au celui qui avait été son élève en quelque sorte. Et celui-ci s'installe dans la salle, c'est la fin du film, et il voit toute une succession de baisers, tous les baisers qui ont été coupés. C'est une sorte de florilège de l'ensemble de ces baisers. Donc Cinema Paradiso, nous allons écouter la musique qui est quand même de Ennio Morricone. Donc, Cinema Paradiso qui a cette dimension sentimentale, mais qui montre aussi comment l'Italie du milieu du siècle était extrêmement répressive par rapport au sexe à l'écran. Et déjà, simplement le baiser. Alors, les États-Unis ont une position particulière, puisqu'ils ont d'abord une grande liberté d'expression jusqu'aux années 30, et aux années 30 apparaît le code Hays. Alors, le code Hays va bloquer toute liberté d'expression dans différents domaines. Alors, je ne peux pas évoquer en détail le code Hays, on pourrait y consacrer une émission. Il va interdire les jurons, les critiques à la religion, la valorisation des délinquants. Bah, le juron, c'est notamment la fin de Autant d'emporte le vent, où Clark Gable dit « je m'en fous, I don't give a damn », et ça a posé des problèmes pour laisser cette phrase dans le film. Donc on est quand même assez loin dans la censure. Il y a aussi une interdiction absolue, c'est l'amour entre blanc et noir. Pas de possibilité d'amour, c'est une interdiction absolue, le péché suprême, on pourrait dire, selon le code Hays. Donc pudibonderie, je l'ai dit, atteinte à la liberté d'expression. Et on pourrait donner deux exemples caricaturaux sur l'exclusion de tout lien avec le sexe. Alors, premier exemple, l'évolution de la tenue de Tarzan. Johnny Westmuller a tourné 12 films entre 1932 et 1948. Et il a au départ une sorte de slip de bain très très réduit. Et petit à petit, il arrive à une sorte de short anglais en poil de bête. Bon. Cela traduit bien la critique, le danger, la volonté de pudibonderie. Et il y a l'arrivée de Boy, le fils de Tarzan. Alors celui-ci arriverait comme une cigogne. Il ne peut pas y avoir de rapport sexuel entre Tarzan et Jane, dont Boy descend du ciel. C'est un avion qui s'écrase. Et là, ils ont trouvé un fils. C'est le film de 1939. Et le second élément, là aussi c'est assez frappant, c'est l'existence systématique de lits jumeaux, y compris chez les couples mariés. Donc pas la moindre suggestion de contact physique. Quant à l'interdiction du rapport noir-blanc, qui est vraiment choquant pour le code Hays, il y aura un abandon avec les 100 fusils, qui est un western dans lequel Raquel Welch et Jim Brown vont avoir un rapport amoureux sans que ce soit, bien sûr, un rapport pornographique. Alors en France, il y a une plus grande liberté, puisqu'il n'y a pas ce type de code. On voit la nudité dans pas mal de films, notamment dans les coulisses d'un music hall qui est Des Orfèvres en 1947. Et on a quand même une volonté de ne pas dépasser un certain seuil. Il y a un film intéressant qui s'appelle Le jour se lève de Marcel Carnet, 1939, où Jean Gabin, qui a tué Jules Berry, s'enferme dans son appartement et est assiégé par la police. Alors il revoit celle avec qui il a une relation amoureuse qu'il jouait par Arletty. Et il y a une scène de douche dans laquelle Arletty apparaît nue, et celle-ci a été coupée au montage, et il n'y a pas eu de possibilité de diffusion. On l'a réintroduit, comme pas mal de situations, quelques années après, ou de nombreuses décennies après, pour la rediffusion du film. Alors si on considère la situation de manière générale pour tous les États dans le monde, on peut dire, effectivement, je le soulignais au départ, que les Russes, les États théocratiques, c'est-à-dire où domine la religion, dans ces États autoritaires, dictatoriaux, théocratiques, il y a même une possibilité de sanction dans les plus théocratiques si un couple s'embrasse dans la rue. Et sans parler, bien sûr, de rejet total de l'homosexualité, il n'est pas question que l'on puisse accepter l'homosexualité. Donc les films doivent se plier à cette injonction de l'État, à ces interdictions. Et effectivement, dans la majorité des États, l'érotisme est interdit, et encore plus, bien sûr, la pornographie. Alors, pour reprendre un petit peu ce qui se passe depuis le début du cinéma, bon, je fais une sorte de panorama général qui est rapidement brossé, puisqu'on a quand même quelques minutes pour consacrer cette analyse. Alors, quand est-ce que vont apparaître l'érotisme et la pornographie au cinéma ? Il est évident que dès l'invention du cinéma, des films érotiques et pornographiques sont tournés. Pour qui ? Pourquoi ? Bien sûr, dans ce qu'on appelle les maisons de plaisir, les maisons closes, les bordels, dont déjà des films pornographiques qui seront présentés dans ces lieux-là. Et pourtant, il y a eu une nudité non ambiguë qui est apparue plus tôt. Il faut savoir que avant les Frères Lumière, il y avait déjà des précédents au cinéma, et notamment les films tournés par Edison ou par Muybridge. Et on veut analyser le mouvement de l'animal, on voit des chevaux, des chats, des oiseaux, et aussi filmer l'humain pour analyser son mouvement. Donc on filme un homme nu qui va marcher, et on filme deux femmes qui vont danser ensemble, donc là, sans aucune restriction, avec toute le... j'allais dire, le panoplie de la nudité. Donc, le film, parfois, précède l'érotisme sans en être vraiment. Par contre, là où il y a le premier film érotique, alors là, c'est vraiment un érotisme limité, c'est Le Baiser. Donc, Le Baiser, c'est un film de 1896, et à cette époque-là, les films durent à peu près une minute, et donc, pendant une minute, on voit ce baiser qui est vraiment le début de la description de l'érotisme. Alors, la liberté, comme je le disais, existe jusqu'au milieu des années 30, et dans différents pays, notamment scandinaves et autres, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui le naturisme, dont la justification de personnes nues en pleine nature, c'est le naturisme. Alors, on donne souvent l'exemple de Eddie Kistler dans un film tchèque. Elle deviendra Eddie Lamar et aura une carrière importante aux États-Unis. Et dans le film tchèque Extase, en 1933, on la voit nue dans la nature. Alors, il y a des sujets qui peuvent être violents sur l'érotisme. En particulier, fera date en 1928, Loulou. Dans Loulou, c'est un personnage qui a créé la coiffure à la garçonne et qu'on peut qualifier d'amoral. Elle a plusieurs amants, il y a une suggestion de relation lesbienne, et donc on a déjà là une avancée importante. Et puis malgré le code Hays, il y a quand même des exceptions. Vous avez Mae West qui a précédé Marilyn Monroe dans les années 30, et la phrase classique de Mae West était « Passez me voir quand vous voulez », donc ce qui impliquait une scène qu'on ne voyait bien sûr jamais, de rapports amoureux entre l'homme et la femme, en l'espèce Mae West. Sur l'érotisme, il y a encore un film qui a fait date, c'est Le Banni de Ward Hughes en 1943. Et ce réalisateur avait fait fabriquer un soutien-gorge spécial pour Jane Russell afin de mettre en valeur sa poitrine. Alors certains ont voulu interdire le film, mais en réalité il est sorti, bien qu'avec un peu de retard. Alors, en Italie, c'est Ria Mer de 1949 qui ouvre la porte à un érotisme. Dans les rizières, on a en particulier Silvana Mangano qui ramasse du riz et elle porte un short vraiment très très petit qui met en valeur son physique. Donc là, l'Italie est d'autant plus originale que au moins trois actrices vont se caractériser par leur dimension érotique extrêmement forte, a même une concurrence à cette époque-là. C'est Sophia Loren, c'est Gina Lollobrigida et vient un peu plus tard Claudia Cardinale. Et là, les réalisateurs vont jouer absolument sur leur érotisme. Du côté masculin, c'est peut-être plus rare, mais il ne faut pas oublier ce qu'a entraîné en 1951 la scène avec Marlon Brando dans un tramway dans mes désirs où son t-shirt est déchiré et ce qui implique une violence érotique animale et Brando étant considéré comme un symbole sexuel. Que peut-on dire sur la France et sur son évolution? Il y a bien sûr Brigitte Bardot qui va transformer les choses, toujours avec un érotisme et jamais bien sûr avec la pornographie. Donc la scène particulièrement originale, c'est au début de « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim, 1956, où elle va danser avec une danse extrêmement lascive et qui est particulièrement érotique. Donc ces différents films vont occuper une position particulière et on peut dire aussi que on a avec le mépris une situation dans laquelle l'érotisme va se manifester. C'est une scène célèbre où Bardot est couché à plat sur le dos, à plat, sur le ventre et elle va demander à son amant « Est-ce que tu les aimes ?» mais ceci, cela, donc les différentes parties de son corps. Et cette scène dans le mépris a quand même été un tremplin avec une évolution vers d'autres possibilités plus fortes en matière d'érotisme. Alors écoutons la musique du mépris. On peut citer deux autres films américains qui vont faire date, c'est Lolita de Stanley Kubrick, 1962, et Baby Doll de Elia Kazan, 1956. Dans les deux cas, c'est une adolescente qui, de manière ingénue ou peut-être perverse, va susciter chez des hommes un désir, une convoitise. Et vraiment, pour l'époque, ces films ont été à la limite de l'interdiction, avec donc ces fantasmes particuliers. Alors, il y a un genre à mettre à part, c'est le genre du film de vampire. Puisque le vampire, en fait, quand il mord dans le cou le personnage, c'est une façon d'avoir une relation érotique, une relation perverse. Donc, le vampire, c'est une singularité et une sorte de fantasme déguisé sur la relation sexuelle. Alors, le bouleversement, quand est-ce qu'a lieu le bouleversement? C'est les années 60 et 70. Là, la représentation du sexe va changer. Et même si cela se fait de manière très lente, on peut citer deux films polémiques qui nous paraissent absolument légers aujourd'hui. C'est La religieuse de Jacques Rivette et Les liaisons dangereuses de Roger Vadim, d'après le livre de Chauderlos de Laclos. Donc aujourd'hui, quand on les voit, c'est très très peu frappant. Par contre, à l'époque, polémique, discussion, volonté d'interdiction de la part de l'État. Alors, fin des années 60, début des années 70, c'est là que la liberté d'expression va se développer. Il y a une exigence dans toutes les sociétés occidentales d'une liberté d'expression absolue, impliquant des scènes érotiques de plus en plus présentes. Il y a aussi la naissance du film pornographique qui va constituer un cinéma à part avec des cinémas spécialisés, donc des salles uniquement consacrées aux films pornographiques. Alors, dans les films, je dirais, non pornographiques, érotique, il y a une explosion du nu et de scènes d'amour physique au cinéma. Alors c'est systématique. On a l'impression que la liberté d'expression avait tellement été entravée antérieurement que là, tout d'un coup, chaque film présente sa scène de lit. Le systématisme finit par être ennuyeux et à la fin des années 70, on va voir qu'on passe à autre chose et qu'un film ne sera pas systématiquement comportant une scène de lit. Alors, phénomène incroyable. En 1974, film dont on n'attendait pas un succès, c'est Emmanuel. Emmanuel, Judd Jekyll, 1974 donc. Un film qui est, je dirais, catastrophiquement mauvais, mais dans lequel Emmanuel a plusieurs expériences érotiques. Et tout d'un coup, les spectateurs français seront saisis d'une sorte de furie pour voir Emmanuel, avec à l'époque une célèbre photo où on voit Emmanuel sur un fauteuil et l'image symbolique va être diffusée largement. D'ailleurs, Sylvia Christel continuera à jouer ce rôle dans plusieurs suites. Alors, toujours dans le softcore non pornographique, il y a un film là aussi qui a choqué. C'est Le dernier tango à Paris. La scène qui a choqué particulièrement, c'est la relation sexuelle avec Maria Schneider. Marlon Brando va la sodomiser et va utiliser du beurre pour faciliter son action. Alors, une polémique a existé sur la scène. Bertolucci et Brando avaient juste eu l'idée, peu de temps avant, et n'auraient pas informé Maria Schneider. Alors, il est évident que le jeu entre un réalisateur et un acteur est souvent manipulateur et pervers, voire Clouseau, voire Piala, voire Ferrara, mais cette manipulation est allée ici assez loin. Il y aurait eu, bien sûr, une levée de bouclier MeToo et une mise à l'écart, qui serait ostracisé comme Kevin Spacey peut l'être aujourd'hui. Alors, film qui a marqué aussi pour une scène particulière, Basic Instinct, Paul Verhoeven, 1992. C'est devant les policiers, on voit Sharon Stone qui va croiser ses jambes. Alors, la difficulté, est-ce qu'elle est nue, est-ce qu'elle n'est pas nue? Alors, elle explique qu'elle avait en théorie été nue, mais que le réalisateur n'avait pas dit qu'il filmerait exactement. Et d'ailleurs, cette scène de culte, on a plutôt une suggestion qu'une réalité, ça reste quelque peu hypothétique, c'est extrêmement rapide. Alors, des réalisateurs vont avoir une sorte de fascination-répulsion pour l'érotisme et la pornographie, pour l'orgie. Kubrick a fait un film fabuleux qui est Orange Mécanique, avec des scènes de sexe, notamment une scène accélérée qui est assez originale. Et surtout, il va tourner Eyes Wide Shut, qui est son dernier film. Alors là, vraiment, Eyes Wide Shut, on dirait que Kubrick est un petit garçon qui a une fascination, répulsion pour l'érotisme et la pornographie, pour l'orgie. Donc le film, vraiment, je dirais, un des plus mauvais, sinon le plus mauvais de Kubrick. Alors on a un cinéaste qui joue un rôle particulier avec plusieurs films touchant à un sujet original, c'est Nagisa Oshima, réalisateur japonais. Alors le moins choquant, c'est peut-être Tabou de 1999 qui évoque la question de l'homosexualité chez les samouraïs. Le deuxième film, c'est L'Empire des Sens, en 1976, diffusé à la fois dans les salles commerciales et RSC. Il correspond à la définition selon laquelle des scènes de sexe non simulées n'impliquent pas obligatoirement un classement de films pornographiques. Donc on voit les ébats d'un couple qui veut toujours aller plus loin. L'homme demande à la femme de l'étrangler pour améliorer ses performances sexuelles. C'est un élément classique. Quand on est étranglé, en théorie, les performances sont améliorées. On cite le cas des pendus où effectivement il y a une érection après le moment où ils sont pendus. Bon, quoi qu'il en soit ici, elle finit par le tuer. Elle va l'émasculer et coudre son sexe dans le sien. Donc, encore une fois, on ne le voit pas, mais ça résulte du film. Le troisième film, c'est un sujet assez rare, sinon exceptionnel. C'est Max, mon amour, de 1986. Un diplomate soupçonne sa femme, Charlotte Rampling, d'avoir un amant. Et finalement, il se rend compte que l'amant, c'est un chimpanzé nommé Max, situation de zoophilie exceptionnelle au cinéma. Autre situation des zoophilies, Padre Padrone, Frère Taviani, 1977, Palme d'Or à Cannes, on décrit la campagne italienne du milieu du XXe, la vie misérable des enfants de paysans soumis à la dictature de leur père et qui vont pratiquer la zoophilie avec plusieurs animaux, notamment les poules, mais aussi d'autres animaux. Alors l'élément qui est aussi de plus en plus accepté ou mis en avant, c'est l'homosexualité. Alors, apparaît ridicule aujourd'hui, La cage aux folles de Molinaro, 78, qui avait été un succès énorme au théâtre avec Jean Poiret et Michel Serrault. À l'époque, ça paraissait une avancée. Aujourd'hui, on peut le regarder d'un œil critique parce qu'on présente une véritable caricature. Par contre, n'est pas caricatural le film de Rainer Werner Fassbinder, Le droit du plus fort, 1975, avec une violence psychologique. On a des scènes de lit entre Fassbinder qui joue un prolo, tombant amoureux d'un bourgeois qui est joué par Karl Heinzmann. Ce qui est amusant, c'est qu'il avait joué le mari de Sissi pendant plusieurs films. Donc le spectateur, à l'époque, non averti, peut avoir un sentiment de malaise, mais c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a une brutalité sociale, il n'y a pas de romantisme, c'est une véritable crise marxiste du comportement du bourgeois qui va se foutre du prolo. Donc là, un film dur. Alors, film a aussi marqué son époque, c'est Gorge profonde, 1972 avec Linda Lovelace. Alors, elle consulte un médecin, elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Et finalement, le médecin lui indique que son clitoris est situé au fond de la gorge et qu'elle n'aura de plaisir qu'avec des rapports buccaux. Donc, là aussi, un film qui fait date et qui marque l'histoire du cinéma. Alors, la suggestion classique, c'est l'allusion à la fellation. On a en permanence, dans les années 40, 50, 60, des actrices telles Brigitte Bardot qui vont sucer leurs doigts, et même, alors c'est vrai pour Brigitte Bardot, une carotte. Bon, ça paraît assez original, sans parler des bananes ou des saucisses, mais ce qui apparaît souvent. Bon, là, la fellation apparaît de manière suggérée, comme dans La fièvre au corps, en 1981, et puis dans un film commercial, Le diable au corps, 1986, Marco Bellocchio, Maroucha Damers va effectivement avoir ce type de rapport sexuel avec un rapport hardcore. Sur le rapport softcore, on peut citer des films qui sont presque ridicules, comme 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, 1986, où Mickey Rourke et Kim Basinger vont se livrer à des jeux sexuels non pornographiques. Et dans le même sens, je dirais du porno soft, du ridicule, il y a 5 nuances de gré. Alors là, effectivement, il y a plusieurs suites. Porno, non, érotico, oui, vulgarité. Ce n'est pas du vrai sadomaso violent. C'est plutôt ridicule. Voilà, en fait, c'est ce qu'on peut dire sur cette situation-là. Alors, troisième musique que nous avons à écouter, c'est Basic Instinct, scène célèbre, mais musique aussi. Thank you. Aujourd'hui, donc, nous avons une disparition de la pornographie dans les salles, puisque les salles spécialisées des années 70 avaient été remplacées par les vidéos ou les DVD. Aujourd'hui, on peut trouver tout ça sur Internet, donc la pornographie disparaît véritablement des écrans de cinéma. Et quand il y a des scènes de sexe non simulées, on ne parle plus de pornographie. Lars von Trier a fait ce type de film avec du sexe non simulé, en particulier Antichrist de 2009 et Nymphomaniac de 2013. Le film de Gaspard Noé de 2015, Love, contient des scènes de ce type. On peut citer La vie d'Adèle de 2013 d'Abdelatif Kechiche, qui a posé quelques problèmes. Le film s'ouvre sur une longue scène de sexe entre Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Les deux actrices se sont plaintes par la suite des conditions dans lesquelles cette scène a été tournée. Donc le réalisateur Kechiche, c'est un petit peu comme Piala ou comme Ferrara, il va imposer, exiger, brutaliser psychologiquement ses acteurs et ses actrices. Le côté obsessionnel du réalisateur apparaît aussi dans Make to My Love de 2017, où on a déjà le fait de filmer en permanence les fesses de l'actrice qui devient gênant, et aussi des scènes de sexe non simulées, notamment un cunnilingus qu'il va obtenir de ses acteurs en les lançant sur l'alcool et puis en les poussant grâce à cette mise en condition. Alors, il y a des réalisateurs qui ont une certaine obsession. En particulier, donc, on peut trouver notamment le cunnilingus et la fellation. La sodomie apparaît de manière comique dans Rien sur Robert. Alors, je ne vous le fais pas écouter. J'avais fait écouter cet extrait lorsque j'avais fait une mission sur Sandrine Kiberlain. Sandrine Kiberlain et Fabrice Luchini sont amants. Sandrine Kiberlain a une relation avec une autre personne et elle va expliquer en détail sa découverte de la sodomie et la scène est particulièrement amusante. Et Luchini est totalement enfolé, il ne veut rien entendre tout en écoutant. Donc la scène est vraiment extrêmement comique. Pour Scorsese, avec sa ferveur catholique, il a, je dirais, comme Kubrick, une sorte de fascination-répulsion pour les monstres qu'il va décrire. Hein, gangsters, loups de Wall Street, etc. Dans Casino 1995, Joe Pesci va assurer sa domination sur Sharon Stone en lui imposant une fellation. Et dans Le Loup de Wall Street, la question est évoquée en permanence, et pratiquée dès le départ par Leonardo DiCaprio dans sa voiture. Donc la situation, c'est une situation, je dirais, d'ouverture et de nudité. Alors, il y a des films inclassables, comme le film de 75 de Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui est d'une originalité absolue. On peut dire qu'il y a une inégalité entre le corps de l'homme et de la femme. On a eu d'abord droit au nu intégral femme avant de voir le nu intégral homme, comme si le sexe masculin apparaissait plus choquant à présenter. Un film est en avance sur son temps, Traitement de choc d'Alain Jessua, où on a, ce qui est peu connu, une nudité intégrale d'Annie Girardot et Alain Delon sur une scène de plage. Et c'était assez, je dirais, étonnant à l'époque. Alors aujourd'hui, on a Virginie Efira, qui est une actrice remarquable, mais qui apparaît souvent nue dans ses films, avec notamment Benedetta de Paul Verhoeven en 2021, sur la vie de celle qui est peut-être ou pas une sainte et qui a aussi une relation lesbienne. Donc toujours plus de suggestions que de présentations de hardcore. Bon, est-ce que ce n'est pas plus mal? La suggestion n'est-elle pas plus érotique que la description technique de l'action? Bon, chacun son appréciation. Bon, simplement, je voulais vous présenter cette situation du sexe à l'écran qui est, encore une fois, extrêmement évolutive et vous montrer dans un raccourci ce que l'histoire du cinéma peut présenter. Donc voilà, encore une fois, de manière très rapide, ce qu'on pouvait dire sur le sexe à l'écran. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Chéliane Ahamada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.